Eh bien, nous allons ce matin, simplement, comme c'est la période des vacances, et comme je l'ai déjà proposé à l'Église, étudier un texte de la Bible. On va aborder aujourd'hui un prophète. J'aime bien les prophètes. Et nous allons aborder un prophète qui est très, très, très peu étudié, très peu lu. Moi, j'aime bien me frotter un peu à ce qui est un peu exceptionnel, un peu rare, parce que souvent, nous connaissons déjà les chemins balisés, battus, et on a déjà tellement de choses à dire là-dessus. Mais dans les petites choses un peu plus différentes, là, on découvre parfois des choses étonnantes. Et ce matin, je vous propose l'étude du prophète Abdias. Alors, j'ai déjà parlé d'Abdias en parlant du peuple d'Édom. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'Abdias. Alors, on va voir dans les trois prédications que j'aurai dans les semaines, dans les autres dimanches qui viennent, on va chaque fois prendre un aspect dans ce livre d'Abdias. Donc, aujourd'hui, on va prendre une partie, et puis la prochaine fois, une autre partie, et enfin, une troisième partie. Je vous incite à prendre un livre de la Bible pendant ces vacances. Comme l'a dit déjà Marie-Luce, en rappelant ce que j'avais demandé la fois passée, je vous incite à prendre un livre de la Bible et à lire. Je ne vous demande pas nécessairement, si vous savez étudier la Bible, étudiez-la. Mais si vous ne savez pas étudier, vous ne voyez pas comment on peut faire pour étudier, prenez simplement, lisez. Lisez et terminez un livre, juste un livre de la Bible. Il y en a combien, le livre de la Bible, les protestants, là? Combien? 66, merci beaucoup. Parce qu'il ne faut pas commencer à me dire que c'est 72. Hein. Donc, alors, c'est 66. Et vous savez que la Bible est divisée en quatre sections. Enfin, pédagogiquement, on dit que plus pour se faciliter la tâche, on met ça en quatre sections. Dans l'Ancien Testament, on a le Pentateuch, les cinq livres de Moïse, puis on a les livres historiques, comme on les appelle, ce sont les 12 livres historiques, et puis on a ce qu'on appelle les livres poétiques, les cinq livres, c'est-à-dire Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, ce sont les cinq livres qu'on appelle livres poétiques, et puis les 17 livres prophétiques. Et dans les 17 livres prophétiques, on a divisé ça aussi en deux, pour des raisons techniques, hein, c'est pas très très grave. Hein. Il y a les 12 livres des petits prophètes et les 5 livres des grands prophètes. Donc, ça c'est l'Ancien Testament, vous avez l'embarras de choix. Ok? Vous pouvez prendre ce que vous voulez là-dedans. Mais j'aimerais bien qu'au mois de septembre, nous puissions, avec tous ceux qui auront lu un livre au moins, en parler un peu ensemble. Discuter un peu ensemble. Vous me ferez, si vous dites, ah, moi j'ai lu tel livre, je dirais, ok, soit que on va se voir, on va faire un truc où on va se voir, en dehors de nos programmes, et on va parler un peu des livres qu'on a lus, ou bien ben, on fera ça à deux à deux, on verra quelle formule faire, mais moi j'aimerais bien que ceux qui vont le lire, évidemment ça reste pas lettre morte, hein, qu'ils ne lisent pas et puis qu'ils disent, ah, ben, j'ai lu, et puis non, mais qu'on puisse en parler un peu, qu'on puisse en discuter. Voilà. Vous savez déjà que moi je vais lire. J'ai lu Abdias, mais en fait, il n'y a que 21 versets. Hein. Donc, autant dire que j'ai lu, mais en même temps, c'est les vacances, quoi. Vous voyez, 21 versets, c'est gentil, quoi. Voilà. Nous allons donc lire d'abord, dans un premier temps, l'ensemble du livre. Il n'y a que 21 versets, donc on va les lire tous les 21. Mais ce matin, nous allons nous focaliser avec la première partie. Et donc, nous allons nous focaliser sur la première partie. Et cette première partie, donc, c'est du verset 1 au verset 9. Mais nous allons d'abord lire l'ensemble. Okay? Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. « Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre? Et quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pilleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü a été fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas pu t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Edom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Téman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captifs son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne crepez pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car vous savez, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront. Elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galad. Les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü et à l'Éternel appartiendra le règne. Waouh ! Quand Dieu se fâche, il se fâche, hein ? Nous allons donc aborder cette prophétie d'Abdias, essayer de voir ce qui s'est passé à cette époque-là, essayer de tirer de ça quels enseignements nous pouvons aujourd'hui, nous aussi, prendre de cela. Comme c'est une prédication qui va être progressive, les éléments ne vont pas commencer à vous apparaître au fur et à mesure. Évidemment, il va falloir aller toujours en creusant de plus en plus. Il est important que nous puissions d'abord le situer dans son contexte. Parce que ça ne servira à rien qu'on prenne ça comme ça et qu'on aborde directement de cette façon-ci. Il faut absolument d'abord que l'on puisse voir le contexte dans lequel cette histoire s'est faite. Alors, d'abord, qui est le prophète Abdias? Abdias veut dire, avec des nuances, ça veut dire adorateur de l'Éternel ou serviteur de l'Éternel. C'est ça le sens du mot. Abdias. On ne connaît rien de ce prophète. On ne sait pas à quelle époque il a vécu. On ne sait pas vraiment qui est ce prophète. Du moins, nous qui avons reçu l'héritage, qui avons reçu le texte. Il n'y a rien qui est écrit sur lui. Mais certaines parties du texte font penser qu'il était connu du prophète Jérémie. On retrouve en effet qu'il y a des textes qui sont exactement, des phrases qui sont exactement les mêmes que celles qui se retrouvent dans le livre de Jérémie. En tout cas, la tradition canonique n'a jamais douté de sa valeur, de la valeur de ce texte. C'est un texte bien de la Bible et l'auteur semble avoir été connu à l'époque où il a écrit son livre, mais on n'a gardé aucune trace de lui réellement. Un peu comme certains personnages de la Bible. Vous connaissez qu'il y a certains personnages dont on connaît l'existence, mais on ne sait rien d'eux. Un exemple, c'est Melchisédek. Cherchez à savoir qui est Melchisédek. Moi, j'aimerais bien faire un mémoire là-dessus, parce que j'aimerais bien savoir qui est Melchisédek. On ne sait pas grand-chose. Hein? Un homme, celui qui a prié, qui a enseigné l'apôtre Paul, Ananias, qui est-il? On ne sait pas. Ce sont des gens qui ont apparu à un moment donné. Simon de Cyrène, celui qui a porté la croix de Jésus. Et c'est qui ce type? On ne sait pas. Mais on sait qu'il existe. Et on sait qu'à un moment donné, il a fait quelque chose, mais on ne sait pas grand-chose. La tradition ne retient pas toujours des choses. Et quelque part, c'est intéressant pour nous de savoir qu'il y a des illustres inconnus de la Bible qui pourtant ont fait des choses extraordinaires. Cela pourrait nous emmener aussi à nous dire qu'il y a une nuée de témoins qui ont fait des choses extraordinaires. Mais la Bible ne retient qu'une partie de ça, qu'une partie simplement. De quoi parle le livre ? Alors, comme nous l'avons lu, il s'agit d'une prophétie, il s'agit d'un oracle de Dieu, il s'agit d'une parole de Dieu. Il s'agit d'une parole de Dieu à travers le prophète Abdias. Et Dieu parle, s'adresse à Édom. Alors, Édom, ce serait intéressant de savoir, mais qui est donc Édom ? Qui est donc ce Édom sur lequel Dieu va prononcer des paroles de malédiction? Parce que Dieu est en train de maudire cette population. Nous allons ce matin aborder uniquement la partie qui va du premier verset au verset 9. C'est la partie de la malédiction, des paroles de malédiction que Dieu prononce. Qui est Édom? Alors, Édom, c'est le nom des descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Ah, les jumeaux, c'est bien que vous soyez là. Mais vous, au moins, vous êtes des jumeaux qui vous entendez. Parce qu'Ésaü et Jacob, vous allez voir, ce n'était pas vraiment la joie. Édom, donc, c'est le nom des descendants d'Ésaü, les frères jumeaux de Jacob. Vous vous souvenez encore de l'histoire de Jacob? Qui s'en souvient? Levez la main un peu ceux qui s'en souviennent. Comme ça, je sais que je ne dois pas devoir tout raconter. Qui s'en souvient? Je n'ai pas vu les... Ah, ok. Ah, mais ça va, c'est la quasi-totalité, et surtout de ceux qui ont été à l'école le dimanche, c'est bien. Et donc, Jacob, vous souvenez que Ésaü avait renoncé à son droit d'aînesse, en échange d'un plat de potage de lentilles avec du pain. Vous souvenez de ça? Et à partir de ça, Jacob a usurpé le droit. Il a usurpé le droit de son frère, le droit d'aînesse, et ensuite, il a volé le droit, la bénédiction patriarcale. Il est devenu patriarche à la place de son frère. Ces événements sont racontés dans Genèse chapitre 25, enfin, en parlant du plat des lentilles, hein, il revient de la chasse, il a très faim, il dit à son frère, « Donne-moi à manger !» Son frère dit, « Attends, je veux bien te le donner, mais promets-moi d'abord que tu me donnes ton droit d'aînesse. »« Ah ouais, mais qu'est-ce que le droit d'aînesse si je veux mourir, moi? Je m'en fous du droit d'aînesse. » Il dit, attends, jure-le-moi que tu me le donnes, que je deviens ton grand frère. Oui, mais allez, oui, d'accord, donne-moi à manger, j'ai faim, je vais mourir. Et le voilà qui donne son droit, et il devient donc le petit frère sans le savoir. Mais Jacob avait de la suite dans les idées. Il avait de la suite dans les idées. Ensuite, il va donc usurper le droit d'aînesse de son frère, et ensuite la bénédiction patriarcale. C'est important quand même que nous arrêtions sur cette histoire de la bénédiction patriarcale, parce qu'il me semble que c'est vraiment la clé pour comprendre aujourd'hui pourquoi Dieu va maudire ce peuple. Alors, nous allons lire donc Genèse chapitre 27, du verset 34 au verset 41. Et nous allons voir là, alors, écoutez, enfin suivez. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des cris forts. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il vient d'apprendre que son frère a été béni à sa place. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac lui dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Jacob, ça veut dire le supplanteur, celui qui vient prendre la place de quelqu'un d'autre. Est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père !» Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug dessus de ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Ainsi naquit une histoire dramatique, un rapport, une relation difficile et dramatique entre deux frères, Jacob et Ésaü. Le livre d'Abdias a comme arrière-plan cette confrontation, cette lutte fraternelle entre, d'une part, Ésaü, d'autre part, Jacob. Et cette lutte va aussi s'élever au niveau de leur descendance, c'est-à-dire Édom et, d'autre côté, Israël. Cette lutte aussi, d'après certains auteurs, mais on ne va pas développer cette dimension-là, c'est aussi une lutte qui va aussi se développer plus tard. Vous remarquerez plus tard que, on va d'ailleurs le voir, vous remarquerez plus tard que c'est encore la même lutte qui va se développer entre les dimensions conflictuelles entre le christianisme et le judaïsme. Mais ça, on ne va pas en parler ici. Et donc, la haine et la soif de vengeance va naître dans le cœur d'Ésaü. Et à cause de ça, souvenez-vous, Jacob, sur conseil de sa maman, va s'enfuir, va aller chez Laban. Et là-bas, il va vivre des aventures et des mésaventures, comme vous connaissez, avec la malhonnêteté de son beau-père, qui va lui donner deux femmes au lieu d'une seule, etc., et tous les enfants qu'il va avoir. Jacob va tenter de revenir sur les terres dont il a reçu l'héritage. Et il va revenir et il va tenter de se réconcilier avec son frère Ésaü. Si vous lisez ce texte, cette partie, c'est vraiment une partie extraordinaire où on voit le frère qui tente d'apaiser la colère de son frère pour pouvoir permettre à son frère de lui donner la place, de lui laisser la place. Et le frère va accueillir son frère favorablement et il y aura une période de trêve. Du vivant de Jacob et d'Ésaü, il n'y aura pas de guerre. Il y aura une trêve. Pourquoi, souvenez-vous? Parce que Ésaü a dit, les jours de mon père s'approchent. Mais quand le deuil va finir, eh bien, je tuerai mon frère. Et donc, tant que le papa n'était pas encore mort, il ne pouvait pas encore faire la guerre. Il a fait la trêve avec son frère le temps de que son papa meure. Mais la haine et la soif de vengeance a été transmise de génération en génération. Les Édomites ont grandi avec la haine, avec la soif de vengeance, avec le sentiment que les Israélites leur ont volé leur héritage, leur bénédiction, et qu'ils doivent le récupérer par tous les moyens. Ils ont vécu et grandi dans cette haine de leurs frères, de sorte que, par la suite, les relations entre Israël et Édom vont être des relations toujours tendues et difficiles. Souvenez-vous, qui sont ceux qui ont été les premiers à refuser, à interdire à Israël de passer par leur territoire lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte? C'est Édom. Qui sont ceux qui se sont alliés avec d'autres puissances pour pouvoir combattre Israël? Édom. Qui sont ceux qui sont allés même jusqu'à chercher les Chaldéens, les Assyriens, pour faire la guerre contre Israël? Édom. Qui sont ceux qui ont été pillés jusqu'à Jérusalem et volés des biens? Édom. La prophétie d'Isaac s'est véritablement accomplie. C'est par l'épée que c'est l'épée qui a toujours dominé l'histoire du peuple d'Édom. C'est par l'épée qu'ils vont faire toutes les conquêtes, qu'ils vont tout gagner. Et l'endroit qu'ils vont, lorsque les deux frères vont faire leur trêve, Ésaü va partir et il va s'installer sur ce qu'on va appeler la montagne de Séir. Et cette montagne va donner une des villes très connues qui s'appelle la ville de Pétra. Est-ce que vous comprenez derrière le mot Pétra, qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit quelque chose là? Pierre, oui! Et souvenez-vous de la prophétie de Isaac. Il a dit quoi? Tu auras pour demeure un endroit où il n'y a pas de graisse ni de la rosée. Et c'est là effectivement. Ils se sont installés sur un territoire rocailleux, comme Isaac avait prophétisé. Ils ont gagné ce territoire-là, mais ils ont continué à livrer des batailles continuelles contre Israël et contre les autres peuples autour. Ils ont brisé plusieurs fois la domination d'Israël sur eux, mais plusieurs fois aussi, Israël a redominé encore, et ça a été toujours la guerre entre les deux. Je vais vous montrer le territoire qui constitue le territoire d'Édom. J'ai demandé à l'excellent Richard de... Vous voyez? Ça, ce sont des territoires comme Dieu avait reparti pour le peuple d'Israël. Vous voyez les peuples qui sont sur le bord, les Ammonites, les Moabites, et puis là, il y a Édom. Alors, Édom se situe là, donc c'est le choix du patriarche Ésaü de se mettre là. Mais, en fait, dans l'histoire, ils vont entrer en guerre et ils vont conquérir toute cette partie. Ils vont prendre tout ce territoire. Et si vous regardez la carte, malheureusement, on n'a pas su le faire. La carte sur, enfin, on n'a pas la même carte, je veux dire. La carte sur la réalité, quand Jésus-Christ était là, vous allez voir qu'il y a un territoire qui s'appelle l'Idumée. Vous avez vu ça sur vos billes, vous allez voir ça, un territoire qui s'appelle l'Idumée. Et l'Idumée, en fait, c'est le territoire d'Édomites. En fait, Édom, Idumée, c'est la déviation, c'est la déformation du mot Édom. Les Grecs et les Romains ont déformé le nom Édom et ils ont donné à ce nom-là le nom Idumée. Tu as trouvé? Ah, voilà.
Ah, ouais, excellent.
C'est bien, toi. Voilà. Cette histoire-là, c'est une province qui existe encore aujourd'hui, l'Idumée. Et vous savez qui sont les Iduméens? Quelqu'un peut me donner un exemple s'il a jamais entendu parler des Iduméens? Un exemple d'un homme qui est Iduméen, qui est d'origine de cette province? Non? La famille de Hérode, le roi Hérode. Ils viennent de ce territoire-là, les Iduméens. C'est pour ça que lorsqu'ils sont devenus rois, lorsque le pouvoir romain les a installés comme rois purés, oh là là, j'ai pas vu le temps passer. Bon, c'est toujours comme ça. Quand tu veux faire une étude, c'est... Bon, on va. Donc, quand le territoire de l'Idumée, Hérode vient de ce territoire-là, lorsque le pouvoir romain a installé Hérode comme roi, les Juifs ont refusé cela, ont contesté. Une des raisons pour lesquelles ils ont contesté la royauté de Hérode, c'est pas seulement parce qu'il était vendu au pouvoir romain, mais c'est surtout parce qu'il est étranger. C'est un édomite. Et souvenez-vous de cette image très forte. Les mages viennent voir le roi Hérode, lui demandent où se trouve l'enfant qui vient naître. Et puis, souvenez-vous, qu'est-ce que Hérode a fait par la suite? Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus accéder à cet enfant, qu'a-t-il fait? Il a fait tuer tous les enfants qui étaient censés être de l'âge de Jésus à l'époque. Pourquoi? C'est l'éternel problème. C'est l'éternel problème entre Édom et Ésaü. C'est l'éternel problème, c'est de l'éternelle guerre entre, d'une part, les descendants d'Ésaü et, d'autre part, les descendants de Jacob. Vous voyez à quel point certaines histoires peuvent avoir des conséquences extraordinaires dans l'avenir. Mes amis, c'est une parenthèse juste que j'ouvre. Veillez à ce que, dans vos familles, vous ne laissiez pas développer les conflits infiniment. Résolvez vos conflits. Nous avons la grâce d'être des chrétiens. Prions intensément pour que nous soyons en paix avec, parce que c'est une garantie pour nos enfants. Sinon, c'est la guerre. Et c'est la guerre à l'infini. Et on ne connaît pas les conséquences à l'avenir. Parenthèse que je ferme. On revient au texte. Je vais essayer d'être un peu bref. Je récupérerai un peu plus plus tard. Donc, première partie de ce livre, du premier verset au verset 9, nous allons simplement parler de la malédiction. En quoi consiste cette malédiction? Vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on voit dans la malédiction? Dieu promet à Édom une destruction. Il y aura du carnage. Il le dit, vous allez avoir le carnage. Je vais vous détruire. Ok? C'est ça la malédiction. Je vais vous détruire. Je vais faire en sorte que vous soyez détruits. Et Dieu promet qu'ils seront détruits par qui? Ils seront détruits par leurs propres alliés. Ceux avec lesquels ils se sont alliés pour aller attaquer Israël. Eh bien, ce sont ceux-là que Dieu va utiliser pour les attaquer et les détruire eux. Vous avez vu quelque part, il dit, Israël sera du feu. Mais Édom sera de la chaume, sera du, brûlera comme la chaume, je ne sais plus comment on dit. Donc la malédiction consiste à être frappé par l'Éternel. Pourquoi? Parce que justement, enfin, pourquoi non? Pourquoi on verra ça la prochaine fois? Mais être attaqué par des adversaires qui étaient les alliés d'hier. On ne sait pas exactement de quels alliés il s'agit. Peut-être c'est des Arabes, puisqu'il y a déjà quand même une présence des Arabes à l'époque déjà. Peut-être que c'est les Assyriens. Ce qui est sûr, c'est que même si c'est des Arabes, c'était sous la domination assyrienne à l'époque. Et on peut donc penser que c'est les Arabes avec l'accord des Assyriens qui vont faire ce travail. L'histoire retient qu'effectivement, Édom a été attaqué et a été dépeuplé complètement. Il y a eu un carnage. On a vraiment tué beaucoup. Le peuple d'Édom n'a pas disparu pour autant. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Édom se s'est mélangé avec les Arabes et ils ont créé ce qu'on appelait le territoire des Nabatéens. Et les Nabatéens se sont développés. Ensuite, par la suite, c'est un mélange entre les Arabes et les Édomites. Aujourd'hui, ce territoire fait aussi l'objet d'un problème. Vous voyez, en Palestine, aujourd'hui encore, tous les Juifs arabes, ce sont les descendants des Édom. C'est un mélange entre les Édomites et les Arabes. Alors, Dieu promet de les atteindre. Moi, ce qui m'a frappé, et je vais peut-être juste, comme élément à tirer de ce texte, juste prendre ça et puis après peut-être conclure. Ce qui m'a frappé, hein, c'est que la source, la circonstance aggravante qui motive Dieu à détruire ce peuple, regardez au verset 3, c'est l'orgueil. 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 Et vous avez vu cet orgueil ? L'orgueil, c'est quoi ? On peut le définir à travers ce texte, on peut le voir à travers ce texte. C'est le fait de compter sur ses propres capacités. Et donc, compte sur la manière dont son royaume est situé. Son royaume est situé en hauteur, sur une pierre rocailleuse. Donc, tout ennemi qui vient, il le voit. Il sait se défendre. Et puis, l'ennemi doit pouvoir escalader les rochers pour arriver jusque chez eux. Ils ont le temps de leur envoyer de l'huile chaude, et je ne sais pas moi, n'importe quoi, de les bazarder. Donc, ils sont sûrs de leur localisation. Deuxième chose pour laquelle ils sont sûrs, c'est dans le verset 8. Vous voyez dans le verset 8, ils sont sûrs de leur intelligence. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dents les sages et de la montagne des Aïus l'intelligence. Ils sont sûrs de leur intelligence. Ils sont assez futés. Et c'est vrai, et c'est vrai. Vous savez que les Édomites avaient installé un territoire à un endroit stratégique, à un endroit de passage intéressant. On ne regarde plus, parce que sinon on va toujours continuer. Et moi je suis bavard, quand je commence, j'explique, j'arrête plus. Ils ont installé leur territoire sur un passage intéressant. Et tous ceux qui passaient de l'Égypte vers la Syrie, eh bien, ils passaient par chez eux, ils percevaient des taxes, comme on fait aujourd'hui encore. Ils avaient un service de douane, ils avaient de l'argent. Et puis, en plus de ça, eh bien, là où ils se situent, c'était un territoire stratégique, surtout pour contre Israël. Et ils ont fait plein d'alliances. C'est des gens qui savaient faire la politique. C'est des gens qui savaient bien faire les alliances. Ils savaient faire le commerce. Ils étaient sûrs de leur intelligence. Et voilà qu'ils sont pris par l'orgueil. Ils sont égarés par l'orgueil, comme dit le texte ici, le verset 4. Et une autre chose, verset 9. Ils sont sûrs aussi de leur force militaire. Ils savent qu'ils ont une belle armée. Et c'est vrai, les Édomites sont des vaillants soldats. Ils ont hérité de leur père Esaü, qui lui-même était un type féroce, physiquement fort. D'ailleurs, Jacob a préféré s'enfuir que de se battre contre lui parce qu'il n'avait aucune chance. Ils comptent sur leur force. Vous voyez, l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, c'est ça. On compte sur ses ressources. Ici, en l'occurrence, ils comptent sur ces trois choses-là. Ils comptent sur leur localisation. Ils sont bien situés, il n'y a aucun ennemi qui peut venir les atteindre. Deuxième chose, ils comptent sur leur intelligence. Ils comptent aussi, troisième chose, sur leur force militaire, leurs guerriers. Ils sont sûrs qu'ils vont, ils vont se défendre. Et voilà comment l'orgueil va les égarer. Et ils vont faire une mauvaise alliance. Ils vont faire un mauvais choix. Ils vont profaner la bénédiction de Dieu. À cause de l'orgueil. Nous sommes tous aussi pris à ça aussi. Et nous avons tous à réfléchir. L'orgueil est quelque chose qui aggrave notre situation. N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on dit aussi que l'orgueil, celui qui monte en orgueil, il tombe en ruine. L'orgueil est quelque chose qui détruit les relations avec Dieu, parce que l'orgueil finit par nous mettre au-dessus de Dieu lui-même, finit par nous faire compter sur nos propres capacités plutôt que sur Dieu. Arrêtons-nous un peu là, et nous allons peut-être tirer juste trois leçons peut-être que ce texte nous donne à voir. Première leçon, Dieu est le maître des nations. Il les dirige et il les fait faire ce qu'il veut. Vous imaginez, il va monter, c'est ce qu'il dit, hein? Une nouvelle vient de l'Éternel. L'Éternel va rassembler un peuple contre Édom. Il est le Dieu des nations. Il dirige l'histoire. L'histoire politique, l'histoire des nations. Deuxième leçon, Dieu est puissant pour atteindre ses objectifs. Je répète, Dieu est puissant pour atteindre ses objectifs. Dieu tient toujours à sa parole. Ce qu'il promet, il sait le réaliser. Dieu n'est pas un incapable. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Dans ce texte, Dieu dit au peuple des hommes, essayez toujours de vous cacher. Essayez toujours de compter sur vos forces. Essayez de vous cacher quand vous voulez. Je vous atteindrai. Quelle que soit la sécurité dans laquelle vous allez vous mettre, moi je vous toucherai là où vous êtes. Dieu peut nous toucher partout. Il peut toucher nos ennemis partout. Il peut faire des dégâts partout, comme il veut. Aucun homme, aucune situation ne peut échapper à sa puissance. N'est-ce pas là un avertissement pour nous? N'est-ce pas là un avertissement à savoir que Dieu peut nous atteindre dans nos orgueils? Mais aussi, Dieu peut intervenir dans nos situations les plus compliquées. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et vous avez remarqué que ici, il s'agit d'une malédiction. On a toujours la pensée que Dieu est bon, n'est-ce pas? Qu'il est gentil, qu'il ne fera rien de mal. Mais ce texte nous dit clairement que Dieu peut se fâcher aussi. Dernière chose que je veux peut-être que nous puissions s'y retenir, c'est que Dieu déteste les orgueilleux. Il les abaisse toujours. L'orgueil est la source de la colère de Dieu et de la malédiction. Peut-être se chercher un chemin dans l'humilité. L'humilité est plus difficile à faire. On peut en parler, mais c'est difficile à pratiquer. C'est difficile à vivre parce que nous sommes remplis de pensées orgueilleuses dans notre tête. Nous sommes remplis de pensées orgueilleuses dans notre cœur. Notre vie autour de nous est une vie qui se vit par l'orgueil. C'est le « je ». Je suis capable de. Regardez pourquoi les gens se battent et se tuent. Pourquoi les gens s'agressent violemment. Il m'a traité, il m'a insulté, il a dit ça de moi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ça. Je suis, moi, dans mon observation personnelle, je suis au-dessus. Je suis supérieur, je suis bon. L'orgueil est quelque chose qui nous habite profondément. Si ce matin nous pouvons y réfléchir, alors que nous allons continuer cette prophétie, à l'étudier prochainement, si nous pouvons ce matin réfléchir à ça, Dieu aujourd'hui encore agit. Mes amis, les prophéties, ce n'est pas seulement quelque chose d'hier. Évidemment, aujourd'hui, on n'a plus de prophéties. Ok ? On n'a plus des gens qui ont cette fonction reçue de Dieu, même si aujourd'hui nous avons l'exercice du don prophétique. Même si aujourd'hui dans les églises, on a des gens qui ont le don prophétique. Mais le don, mais le prophète dans la fonction, comme dans l'Ancien Testament, ça n'existe plus. Il y a juste un verset pour ça, c'est Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir parlé autrefois, de diverses manières, par les prophètes, Dieu, maintenant, en ce temps, ici, a parlé par son Fils. Point barre. Dès que son Fils arrive, il n'y a plus d'autres fonctions. Il n'y a plus que les fonctions commencent avec Christ et en Christ. Prions. Merci Seigneur pour la réalité de ta parole, pour tout ce qu'on peut en tirer. Les conséquences, les effets, jusqu'aujourd'hui, jusque maintenant encore. Seigneur, ce qui s'est passé avec Édom, le drame avec Ésaü et Jacob, qui se prolonge encore aujourd'hui, et une partie de cette guerre entre les Arabes et Israël est encore liée avec tout ça. Seigneur, nous voulons te confier nos vies et te remercier pour ta parole. Que ta parole nous instruise et nous aide à grandir, à aller de l'avant. Merci pour les prophéties. Comme dit ta parole, aide-nous à ne pas les mépriser, mais à retenir ce qui est essentiel. Merci Seigneur de nous conduire dans cette méditation, dans les jours qui vont venir aussi. Au nom de Jésus. Amen.